Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Alors, bienvenue à ce 33e épisode de La Tête à Papineau. Je me présente Alex Thibault, directeur de Bistro Brain. Et j'ai aujourd'hui, pour ce 33e épisode, à mes côtés, à ma gauche précisément,
Marika,
qui va faire une belle entrevue avec
Coralie.
Et à ma droite, devant moi, j'ai Maud Hamilton qui va nous faire une chronique. Cette fois-ci, sur quoi, Maud?
Sur les exoplanètes.
On fait un retour sur les derniers événements de Bistro Brain depuis l'enregistrement de l'épisode 32, le 6 mars dernier. Donc, le 13 mars à 17h, c'était les luttes sociales d'hier et d'aujourd'hui au Bas-Québec à Sherbrooke en collaboration avec le Starrus. Et c'était pour l'occasion de notre spécial 7 ans. On a reçu 151 personnes. Ensuite, la semaine suivante, le 19 mars, on a une petite collaboration avec Radio-Canada avec l'événement Le Bar des sciences thématique jeux vidéo. Et ça va encore lieu une fois au Bas-Québec. On était bien contents de participer à cette collaboration. Le 20 mars, Technologie du futur à la Chasse-Galerie à Trois-Rivières. On a parlé de batteries, d'agroalimentaire et d'électricité dans les bidonvilles. Les enregistrements sont sur YouTube. Le 28 mars, cancer et immunologie à Montréal, au Sainte-Élisabeth, le nouveau bar, pour nos activités. On a eu une vulgarisation de qualité. Encore une fois, une collaboration exceptionnelle avec l'IRIC, l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal. Et dernièrement, hier soir, 3 avril, thématique environnement à Sherbrooke au Bas-Québec en collaboration avec le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable. J'y étais, c'était un plaisir. Encore une fois, beaucoup de sourires sur le visage, c'est vraiment ça qui me fait chaud au cœur à chaque fois. Et je répète, vous pouvez toujours voir les enregistrements sur notre chaîne YouTube, simplement à taper Bistro Brain dans la barre de recherche et laisser un petit pouce en l'air pour vous montrer, nous montrer votre appréciation. Donc, on a déjà fait un peu l'introduction de l'épisode aujourd'hui, une chronique sur les exoplanètes avec Maud et une entrevue avec Coralie Beaumont, animée par Marika. Donc, je te laisse la parole, Maud, c'est maintenant à toi.
Oui, merci Alexis. Donc, aujourd'hui, je vous invite à un voyage interstellaire. On va visiter de nouvelles planètes. Donc, est-ce que tu es prêt?
J'ai ma ceinture de sécurité.
Yes, good. Donc, première chose, un petit fun fact. C'est en 1990 qu'on a découvert la première exoplanète. Une exoplanète, c'est une planète qui se trouve au-delà de notre système solaire. De nos jours, donc seulement 30 ans environ le plus tard, on compte maintenant plus de 5000 exoplanètes qui ont été découvertes. Et en plus de ça, on peut dire qu'on découvre environ une exoplanète par jour.
J'imagine qu'à ce moment-là, il y en a des vertes et des pommes.
Ouais, clairement. On dirait en fait qu'il y a des planètes qui sont tout droit sorties d'œuvres de science-fiction. Donc, je vous ai concocté une petite liste de planètes que j'ai trouvées les plus étonnantes. Donc, tout d'abord, nous avons une magnifique planète bleue du nom de HD189733. Incroyable le nom. Cette planète-là a des dangereux nuages composés de morceaux de verre. Par la suite, on a la planète Kepler-70b qui se fait chauffer la couenne à 6800 degrés Celsius et qui s'évapore lentement sous cette chaleur pour éventuellement disparaître. Après ça, une planète à deux soleils qui rappelle quand même Tatooine pour les fans de Star Wars. Et finalement, une planète qui se retrouve dans la noirceur éternelle comme sa surface est autant réfléchissante que le charbon en fait, là. Est-ce que vous avez une planète préférée parmi celles-là?
Je sais pas, on a le choix entre se faire trancher la tête par des morceaux de verre, pas pouvoir bronzer ou trop bronzer.
Le choix est difficile, hein?
Tout à fait.
Bon, maintenant, je vais vous demander de revenir sur Terre. On va revenir sur des planètes qui sont un peu plus accueillantes pour nous, l'humain. Parlons de planètes dites habitables. Pour qu'une planète soit qualifiée d'habitable, on a besoin que 3 critères soient respectés. Donc, moment pop quiz, est-ce que vous avez une idée de quels critères doivent être respectés pour qu'une planète soit habitable, en fait?
On a de l'eau liquide.
OK.
Une atmosphère.
Oh!
J'imagine des plantes qui soient à la base aquatique, peut-être, un peu comme les algues qui se sont formées sur Terre en premier lieu.
Bon, je pense que vous êtes toutes vers une bonne piste de solution. En gros, TAP doit pouvoir soutenir la vie pour une période substantielle de temps. Ça, c'est la condition englobante, disons. Pour ça, elle doit posséder de l'eau liquide, comme a dit Marca, yeah. Des sources d'énergie et des sources de nutriments. Pour ce faire, cette exoplanète doit donc se retrouver dans la zone habitable de son Soleil. Mais attention, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, là.
On s'en doute quand même, hein.
Ouais. C'est pas parce que la planète se trouve dans la zone habitable de son Soleil qu'elle va être habitable. Par exemple, pour une planète qui orbite autour d'une étoile qui produit beaucoup de rayons X ou d'UV, ben, la planète sera pas habitable. Étant donné que la planète va manquer d'oxygène, comme il y aura pas d'atmosphère, comme t'as dit tantôt, Coralie. Donc, atmosphère important aussi. Si j'utilise un exemple qui est un peu plus près de nous, dans notre système solaire, la zone habitable de notre Soleil commence juste après Vénus et s'arrête juste avant Mars. Donc, si vous vous rappelez bien votre truc mnémotechnique du primaire, mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète pour vous souvenir de l'ordre des planètes. La seule planète qui se trouve dans cette zone, ben, c'est notre chère Terre. Donc, la seule planète habitable pour nous.
On s'entend qu'habitable, c'est pas nécessairement juste pour les humains, j'imagine.
La notion que j'utilise là, pour dire habitable, c'est habitat pour l'humain, pour la vie sur Terre. Mais si on s'intéresse à n'importe quelle forme de vie, il y a deux courants de pensée chez les astronomes qui sont à la recherche de formes de vie. On a des chercheurs qui s'attendent à trouver la vie sur des planètes rocheuses comme la Terre. Et de l'autre côté, on a des chercheurs qui croient que les planètes qui sont recouvertes d'océans sont une meilleure option. Considérant que l'eau était à la base de la vie sur notre planète, une planète avec une bonne quantité d'eau serait donc une bonne candidate pour la vie. À noter que quand on parle de formes de vie, de nombreux chercheurs pensent que les formes de vie les plus courantes dans l'univers se retrouvent plutôt sous leur forme la plus simple, donc des micro-organismes.
Mais là, j'imagine que toi, Maud, qui étudie la biologie des cellules, tu vas nous faire un plaisir d'expliquer comment ça fonctionne. C'est un micro-organisme et comment on les étudie?
Oui, c'est pas tout à fait mon domaine d'étude, mais c'est pas grave, je vais continuer. Avec la technologie qu'on possède en ce moment, les astronomes cherchent à trouver ce qu'on appelle une biosignature qui pourrait indiquer la présence de vie. Donc, je vais vous donner un exemple un peu plus concret de ce qu'est une biosignature. Si on avait un extraterrestre, donc un observateur externe à la Terre, et qui regardait notre chère planète et mesurait l'atmosphère, ce qu'il pourrait voir, c'est qu'il y a un surplus d'oxygène et donc il pourrait y avoir des organismes vivants qui sont capables de photosynthèse comme nos arbres ou le plancton, par exemple.
Mais là, au final, est-ce qu'on a trouvé une forme de vie sur ces chères exoplanètes-là qui sont très hospitalières?
Pour l'instant, pas de signe de vie confirmé. Mais si on utilise cette même stratégie, on a une exoplanète, l'exoplanète K2-18b, qui pourrait potentiellement, puis là, je vais le répéter, là, potentiellement, on n'est pas sûr, abriter des formes de vie extraterrestres. Donc, ces observations ont été réalisées grâce au télescope spatial James Webb, qui donne des indices spectraux pour identifier les gaz qui sont présents sur ces exoplanètes. Donc, l'atmosphère de cette exoplanète-là serait composée de méthane, de dioxyde de carbone et de très peu d'ammoniac. Ça pourrait donc suggérer qu'on fait affaire à une planète de type océanique, donc présence d'océan. Et finalement, et ça c'est la partie là, vraiment intéressante, c'est qu'il y aurait, parce qu'on n'est pas encore sûr pour ça non plus, non, on n'est jamais sûr. Il y aurait donc du sulfure de diméthyle, et ça c'est un composé qui est produit par plusieurs formes de vie sur Terre. Donc, comme j'ai déjà dit, il reste encore à confirmer la présence réelle de ce composé. Et après ça, il va falloir en fait également conclure si ça peut provenir d'autres sources que de sources vivantes. Et à ce moment-là, on va pouvoir conclure s'il y a de la vie sur cette planète-là ou non.
Donc, pas de cousin exoterrestre de sitôt.
Écoute, ce que je peux te dire, au moins, c'est qu'on cherche. Là. Rappelle aussi qu'on trouve environ une exoplanète par jour, donc les chances qu'on trouve de la vie extraterrestre un jour sont quand même assez élevées. Et pour ceux que ça intéresse, spécialement la recherche de vie extraterrestre intelligente, on cherche aussi. Il y a des organismes comme l'Institut SETI, dont l'acronyme veut littéralement dire « Recherche de vie extraterrestre intelligente », qui écoutent le ciel depuis plusieurs années. Ils cherchent des ondes radio extraterrestres avec des télescopes qui sont, eux, radiosensibles. Donc, peut-être qu'un jour, on va pouvoir rencontrer E.T. Qui sait?
Est-ce que tu penses qu'on va rencontrer E.T., Marca?
J'aimerais beaucoup.
T'aimerais toucher son doigt et guérir tous tes maux?
Oui, faire un tour sur son vélo.
Ouais, ça, j'avoue. Ouais. Pour l'Halloween, en plus. Ben, un grand merci, Maud, pour ta chronique sur les exoplanètes. Ça nous ouvre les horizons. Donc, on va passer à une petite transition et on vous revient avec une entrée. Et on est de retour pour ce 33e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain qui vise à se laisser inspirer notamment par les parcours des gens impliqués en sciences, en vulgarisation. Et ça tombe bien, aujourd'hui, on a une invitée spéciale qui va pouvoir nous parler en long et en large de son implication et son amour pour la science. Marika, je te laisse la présenter, notre superbe entrevue pour ce soir.
Oui, merci Alexis. Donc, je te souhaite la bienvenue, Coralie. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là.
Super. Donc, petit, si je résume ton parcours, Coralie, tu es originaire de Belgique où tu as d'abord étudié en droit et travaillé en tant qu'avocate durant 3 ans à Bruxelles. Puis, changement de cap, tu décides de revenir aux études pour suivre un master complémentaire en sciences et gestion de l'environnement. C'est d'ailleurs durant ce master que tu effectues un stage à l'Université de Sherbrooke et que tu découvres le Québec. Tu poursuis ensuite ton parcours au Québec, d'abord en effectuant un DESS en journalisme à l'Université de Montréal. Puis, durant quelques années, tu évolues en tant que journaliste et chroniqueuse pour plusieurs journaux et magazines, dont La Tribune, Pivot et Nouveaux Projets. Donc, cher public, si vous avez peut-être déjà entendu le nom de Coralie Beaumont dans les médias, c'est parce qu'elle est à quelques endroits.
Je me disais également d'avoir vu ce nom passer, puis tout s'explique maintenant.
Coralie, tu transitionnes ensuite pour faire un contrat de professionnelle de recherche en communication pour Biodiversité Québec. Et finalement, tu portes aujourd'hui fièrement le statut d'étudiante puisque tu débutes un doctorat en droit et en biologie à l'Université de Sherbrooke sous la direction de Catherine Choquette et Dominique Gravel. Quel parcours débordant de rebondissements! Vraiment, c'est impressionnant. Donc, ma première question pour toi. Avec ton parcours en droit et en communication, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te spécialiser en biologie et en environnement?
Eh boy, longue histoire courte, hein? si je dois citer un moment mémorable, c'est vraiment mon voyage dans le Yukon. Donc, après mes études en droit, on a décidé avec mon chum de partir vivre là-bas quelques mois. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment ressenti ce que c'est la nature, finalement, de ne pas être en contrôle, mais plutôt d'avoir cette nature autour de nous qui nous contrôle et qui, dans laquelle il faut arriver à survivre, finalement. Ça a l'air assez tough comme ça, mais c'était vraiment la sensation. Et c'est vraiment là que mon lien avec la nature s'est révélé. Et une fois que j'ai passé cette étape-là, on dirait que j'étais plus la même. Donc revenir à Bruxelles, au milieu des voitures, dans les constructions, etc., on dirait qu'il me manquait cet aspect de la nature à chaque jour. Raison pour laquelle, quand j'étais avocate, ben, j'aimais ça. Mais la vérité, c'est que je cherchais à passer en droit de l'environnement parce que ça me semblait tellement important de défendre ces valeurs. Alors c'était, bon, je ne vais pas dire mon âge, mais c'était bien avant le rapport du GIEC sur le 1.5, par exemple, qui a fait lever les foules, Greta Thunberg, on ne connaissait pas. Et je me souviens, à l'époque, j'avais postulé dans un cabinet qui me disait « Bah, tu sais, non, on fait le contraire, là. En fait, nous, on défend les industries qui polluent pour essayer qu'elles aient le moins d'amendes possible, etc. » Puis j'étais là « Ok, ça, en fait, je ne vais pas être capable, ça ne marche pas. » Il n'y avait pas d'action collective non plus en Belgique. Donc, raison pour laquelle j'ai fait un peu un bilan en me disant « Ok, bah, tu sais quoi, je vais faire ce qui me passionne et quelque chose qui résonne en moi et qui vraiment va chercher mon sens de la justice aussi. » Donc, plutôt que défendre des individus ici, je défends des écosystèmes. Et c'est comme ça que j'ai fait le master en environnement en Belgique. Alors, pourquoi la biodiversité? C'est marrant comme histoire parce que, un peu comme beaucoup de gens, je pense, à l'époque, tu sais, la biodiversité, on n'en parle pas tant, là. Je trouve ça un peu... Bah, pas poche, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la biodiversité? C'est un petit oiseau, un arbre, c'est bien sympa, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Puis, à une réunion, j'ai rencontré celui qui est mon directeur de thèse aujourd'hui, puis il me parlait de quelque chose, Biodiversité Québec, puis il me disait, c'est génial, c'est un portail, on va mettre des données en ligne, tout le monde va pouvoir les consulter. Je me souviens à l'époque, avec ma casquette un peu de journaliste, j'avais dit, mais voyons donc, tu crois que tu vas mettre un portail en ligne avec des données de scientifiques, puis les gens, ils vont arriver comme ça, ils vont cliquer dessus, puis ils vont venir consulter ces données. Donc j'ai un petit peu démonté son projet en 2 secondes en disant, ouais, je crois que ça passera pas le test du réel, et c'est comme ça que finalement, maintenant, j'ai eu un travail pour Biodiversité Québec pour développer la partie vulgarisation et justement essayer de rejoindre les gens pour leur expliquer c'est quoi la biodiversité, que j'ai pu découvrir moi-même aussi, et c'est pas poche du tout. En fait, c'est passionnant à découvrir tout ce qu'on sait pas là-dessus. Donc, c'est vraiment cette expérience-là qui a fait que quand mon directeur de thèse m'a dit, bah tiens, ça te dirait pas de faire un doctorat là-dessus? Beaucoup de réflexions, beaucoup d'interrogations, et puis à la fin, un grand oui.
Une suite de valeurs et de rencontres qui ont mener ton parcours un petit peu. Tu parles de protection de la biodiversité, souvent considérée comme cette grande oubliée. Donc, comme tu mentionnais plus tôt dans les médias, on mentionne souvent le besoin d'agir beaucoup en lien avec les changements climatiques, mais beaucoup moins en lien avec la biodiversité. Pourrais-tu nous en parler un peu davantage? Et est-ce qu'on en connaît les principales causes de perte de la biodiversité?
Oui, justement, il y a un peu un tunnel climat en ce moment qui est bien correct, à savoir que les gens au climat ont vraiment fait leur job là. Ils ont bien bien travaillé pour vulgariser, pour être présents dans l'espace public. Et donc, à côté de ça, la biodiversité a un petit peu plus de mal à démarrer, à être comprise en tant que situation problématique, mais aussi en tant que solution. Parce que oui, le climat et la biodiversité, c'est un peu comme les deux faces d'une même médaille. Donc à savoir, quand on agit positivement sur l'un, ça peut agir positivement sur l'autre et inversement. Donc au niveau des causes, justement, moi c'est ça que j'aime dans la biodiversité, c'est qu'il y a comme tout le beau qu'il n'y a pas en climat. Donc par exemple, si je vous dis « faut réduire les gaz à effet de serre, faut réduire les émissions de CO2 », mais si je vous parle en biodiversité, je vais vous dire « si on plantait un arbre !» C'est donc ben sympa dit comme ça. Puis pareil, tout le côté émotif, donc quand on parle d'une molécule de méthane, je ne sais pas vous, mais moi, je ne m'endormirais pas là-dessus en faisant des beaux rêves. Là. Mais par contre, si on commence à me parler d'espèces qui sont malheureusement en voie de disparition ou justement d'un magnifique écosystème, etc. Disons que ça vient beaucoup plus me chercher au niveau émotif. Et donc quand on sait par exemple que des tourbières, ça va vraiment stocker du CO2, on dirait que c'est comme l'aspect concret. Et effectivement, c'est dommage du coup qu'on ne parle pas plus de biodiversité parce qu'il y a beaucoup de solutions à aller chercher là-dedans qui se reflètent en climat plutôt en tant que problème. Donc à savoir, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, mettons plus de forêts par exemple. C'est un peu simpliste, mais pour l'image, je vais utiliser celle-ci. Alors au niveau des causes justement, on y reviendra sans doute plus tard, mais il y a tellement de vulgarisation à apprendre en biodiversité. On dirait qu'on démarre de nulle part quasiment, à savoir que il faut trouver ces messages clés que les gens comprennent et qui s'approprient. Donc, par exemple, Marika, si je te demande c'est quoi la première cause de destruction de la biodiversité, je l'ai demandé beaucoup autour de moi. C'est pas un secret, c'est dans le rapport de l'IPBES que personne ne connaît, qui est le GIEC de la biodiversité, donc rien que ça. Les gens vont me parler de la pollution, par exemple. Ben non, la pollution, c'est que la quatrième cause de destruction de la biodiversité. La première cause, c'est les changements d'usage des sols. Donc, un exemple très, très concret, par exemple, un jour, je participais à une fresque pour la biodiversité. Donc, si vous voyez passer ces événements, allez-y, c'est vraiment le fun. Et on parlait avec les participants du côté solution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, pour protéger la biodiversité? Et un des participants a eu cette idée géniale de dire, on devrait limiter l'auto-solo. Puis moi, je me dis, c'est intéressant. C'est quoi le lien qui fait entre biodiversité et auto-solo, dont on parle beaucoup en climat? Puis là, sans rien lui enlever à sa réponse, qui était vraiment parfaite, il me dit, tu sais, quand on roule sur les routes, on écrase beaucoup de moustiques avec le pare-brise, puis parfois on chope un cerf au bout de la rue. Puis j'étais là, oui, effectivement, ça atteint la biodiversité. Mais je lui dis, tu sais, finalement, l'auto-solo, quand on y réfléchit un petit peu plus, plus d'auto, ça veut dire plus de parking, plus de routes, voire d'autoroutes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller gruger encore plus dans les espaces naturels et ça va venir aller appuyer sur la première cause de destruction de la biodiversité, quel changement d'usage des sols. Puis là, j'ai vu ses yeux s'illuminer et puis me dire « mon Dieu, j'avais jamais pensé à ça comme ça ». Donc on voit que ce n'est pas un message compliqué, c'est un message à répéter, à travailler pour les gens. Et une fois qu'on comprend ça, on se rend compte que réduire l'auto-solo ou mettre des voitures électriques, par exemple, on peut peut-être régler un problème climatique, mais est-ce qu'on va vraiment régler un problème au niveau de la biodiversité? Peut-être pas tant, finalement. Donc voilà, il y a vraiment des beaux progrès à faire.
Je vais poser la question autour de moi, voir quelle réponse j'obtiens.
Pour la fin, c'était quoi les deuxièmes, troisièmes?
Oui, j'espérais que tu allais poser la question, sinon j'allais le dire un peu plus loin. Donc la première, c'est vraiment le changement d'usage des sols et des mers, parce qu'on ne parle pas assez de l'océan, qui a un gros impact au niveau climat aussi, notamment, pas que biodiversité, évidemment. La deuxième cause, c'est l'exploitation directe de certains organismes. Donc on pense directement à la surpêche, par exemple. Troisième, là, ça va être très amusant, c'est les changements climatiques. Donc, en biodiversité, c'est notre troisième cause au niveau des rapports de l'IPBES. Et la quatrième, pollution, je l'ai dit. Cinquième, est-ce que quelqu'un a une idée? On en parle de plus en plus. Espèces exotiques envahissantes. Ah. Alors, juste une petite nuance ici, c'est que c'est au niveau mondial. Donc, ça serait intéressant de faire ce travail au niveau du Québec. Donc, c'est possible que les causes soient dans un ordre différent sur un territoire donné, mais ça donne un petit peu une proportion. Et c'est sûr que rien que savoir ça, même au niveau local, si on était capable de savoir dans ma région, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la pollution est extrêmement plus présente que les espèces envahissantes, par exemple? Ce serait déjà un beau travail à faire, finalement. Un peu comme ceux en climat, on est un petit peu jaloux d'eux, là. Eux, ils savent très bien les causes. OK, c'est quel secteur qui envoie le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut travailler en premier? Par exemple, les transports. Ben, voilà, il faudrait que la population en entende un petit peu plus parler, de savoir, ben, changement d'usage des sols, c'est quelque chose, là.
Merci beaucoup. Je reviens à ton parcours, qui est super multidisciplinaire. Ton parcours a peut-être été parsemé de grands questionnements existentiels. Pourrais-tu nous parler un peu de comment a évolué la perception de ton rôle au fil des années?
C'est vraiment une bonne question parce que quand tu me demandes ça, on dirait que je me revois assise dans le divan en train de me dire « Eh mon Dieu, quel genre de choix je suis en train de faire pour mon futur? »
J'ai l'impression que c'était là à un moment donné ou à un autre.
C'est ça. Puis de nouveau, aujourd'hui, ça m'a l'air tellement cohérent, les choix que j'ai faits, mais dans le monde 2015-2016, ça l'était beaucoup moins. Là, personne ne parlait de climat. Donc, au niveau des embûches, ben, la première, c'est que les métiers, parfois, n'existent pas. C'est très difficile de faire sa place parce que on peut, même en journalisme, par exemple, c'était très compliqué de faire valoir que ça avait une valeur d'avoir un journaliste spécialisé en environnement dans une rédaction, par exemple. Parce que c'est souvent un enjeu qui pouvait être vu comme lointain ou moins important, par exemple, que les affaires judiciaires ou même l'économie, par exemple. Donc, ça a toujours été un petit peu des embûches de « OK, c'est cohérent comme parcours, mais... Je le sais, moi, mais il faut que j'arrive à le faire découvrir aux autres aussi. » Donc, au niveau de la cohérence du parcours, ça, c'était quelque chose aussi à savoir. Beaucoup de gens me disaient, mais bon Dieu, t'es en droit, qu'est-ce que tu vas faire en environnement, là? Ça n'a vraiment pas de lien. Alors que je suis sûre qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, le lien saute aux yeux, à savoir, il faut revoir les réglementations, il faut changer les normes, il faut travailler avec les gens, etc. Et puis, à l'époque, on n'en parlait pas tant de tout ça. Donc, c'était vraiment d'avoir cette sensation que c'est quelque chose d'important à faire, mais de peut-être pas avoir les débouchés pour suivre une route un peu tout établie. Impossible de pas parler de la précarité de l'emploi aussi. Je pense que, je le dis clairement, parce que je pense que beaucoup de gens en environnement se retrouvent dans ce témoignage-là, à savoir que c'est pas toujours les emplois les mieux payés, les mieux reconnus à ce niveau-là, ou même au niveau des contrats. Mais personnellement, et je sais que c'est enregistré, mais je vous fais le pari que si on réécoute ce podcast dans 5 ans, on dira les choses différemment. En tout cas, je l'espère. J'espère, parce que je crois que c'est vraiment les métiers d'avenir. À côté de ça, ça, je parle un petit peu des embûches, mais en vrai, c'est tellement cohérent dans une vie de pouvoir suivre ce genre de valeurs-là. C'est que des beaux métiers. On parle tout le temps, oui, mais il faut conserver les emplois. Si on commence à changer le système, on va perdre plein d'emplois. Puis je réponds tout le temps, oui, mais on va en gagner tellement. À savoir, imaginez, il faut nettoyer les océans. Rien que ça. Il faut nettoyer tous les espaces naturels, il faut réensauvager certains espaces de la planète, il faut reboiser, il faut venir restaurer. Et tout ça, c'est des belles jobs à faire. Il faut repenser le système de conception des déchets. Il y a tellement de choses hyper intéressantes dans lesquelles on peut avancer en tant que société. Donc parfois, perdre quelques emplois, c'est peut-être ouvrir la porte en découvrir des meilleurs ou en tout cas d'autres qui sont tout aussi intéressants. Donc voilà, j'ai un peu cette phrase qui fait rire tout le monde, à savoir que je pense que mon métier n'existe pas encore, malgré toutes ces années. Puis voilà, je pense que j'essaye de le créer avec d'autres aussi, à savoir cette espèce de vulgarisation, d'aider les gens à s'y retrouver à travers tout ça, finalement.
Justement, sur ton profil LinkedIn, tu t'es décrit comme une vulgarisatrice. J'adore le choix de mots que tu utilises. Pourrais-tu nous dire rapidement qu'est-ce que tu entends par là et à quelle cause tu souhaiterais contribuer?
Je pense que c'est une vision très personnelle de la vulgarisation, mais que d'autres personnes s'y reconnaîtraient aussi. À savoir, pour moi, la vulgarisation, ce n'est plus ou ce n'est pas, peut-être que ça ne l'a jamais été, mais cette vision très passive de donner de l'information, à savoir, regardez-moi, j'ai les connaissances, lisez, apprenez, gens de personnes, et puis on laisse ça comme ça. Je pense que la vulgarisation aujourd'hui, surtout en environnement, elle implique vraiment des actions, elle implique d'aller là où les gens sont, de s'adapter à leur réalité pour arriver avec des solutions qui s'adaptent à eux. Quand je parle des gens, c'est aussi les entreprises, c'est aussi les pouvoirs publics, etc. Donc, on est vraiment beaucoup plus dans cette espèce de lien qu'il peut y avoir, à savoir, arriver chez quelqu'un et dire « là, il faut protéger la biodiversité dans un jardin. » Ouais, mais cette personne, elle vit en appartement, là. Ok, bon, c'est peut-être pas ça la meilleure action qu'elle peut faire. C'est peut-être un exemple un petit peu bête, mais parfois, quand on fait de la vulgarisation grand public, on perd un petit peu de ce caractère-là, de dire « oui, mais comment on met concrètement en œuvre les solutions ?» Parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est de comprendre ces solutions, parce qu'une solution qu'on ne comprend pas, on va pas la faire ou pas bien la faire, mais surtout comment est-ce qu'on la met en œuvre dans la réalité, ce qui est la raison pour laquelle d'ailleurs je fais un doctorat. Une autre partie que j'aime beaucoup dans ce terme vulgarisation, c'est que quand j'étais journaliste, je me disais tout le temps, ouais, mais Le problème, c'est le manque d'informations. C'est certain que si on donne l'information aux gens, ça va avancer, on va aller de l'avant, etc. Puis après quelques années de pratique, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas tant que l'obtention de l'information. Et pour ça, justement, au niveau des biologistes, il y a vraiment, par exemple, du travail à faire pour leur dire, en fait, pour leur donner une voix, pour qu'ils comprennent qu'ils ont une voix là-dedans et les aider à parler aux médias, à parler à la population, etc. Parce que ce n'est pas le rôle des scientifiques à la base de faire ça. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin parfois d'avoir des intermédiaires comme des gens comme moi, où moi, je ne suis pas une biologiste, mais j'essaye de parler avec eux. Et justement, quand je parle avec des biologistes, je leur dis, mais vous vous rendez compte de la place que vous avez dans la société au jour d'aujourd'hui? Vous ne le saviez peut-être pas en commençant vos études, mais vous êtes les climatologues, vous êtes ceux qui allez pouvoir nous guider sur cette restauration de la biodiversité, sur ce qu'il faut faire, quelles sont les actions à prendre. C'est des biologistes qui doivent avoir un peu une voix au chapitre pour tout ça. Donc, quand je parle de vulgarisation, c'est par exemple essayer de faire en sorte que des biologistes écrivent des lettres ouvertes dans les médias, participent à des podcasts comme celui-ci et prennent leur place finalement dans leur société avec toutes ces connaissances hyper importantes qu'ils ont grâce à leur bagage académique.
Oser prendre parole.
Exactement.
Justement. Quels sont tes conseils pour un scientifique, un biologiste qui souhaiterait prendre la parole et s'adresser aux médias et aux décideurs?
Oser le faire. Je pense que si des gens qui m'écoutent me connaissent, ils vont rire parce que c'est ce que je répète tout le temps, c'est oser le faire. On est beaucoup plus expert qu'on le croit. Donc, il y a une certaine humilité à avoir, donc à savoir qu'il ne faut pas développer une maladie des Nobel et croire qu'on sait tout sur tout. Mais quand il s'agit de questions entre guillemets de base, un étudiant en biologie peut avoir largement les connaissances pour pouvoir répondre ce type de savoir. Donc, je parlais des causes de destruction de la biodiversité. Ça se trouve tel quel dans un rapport de l'IBES. Faire un format instagrammable d'une page en disant « Hey, connaissez-vous les causes ?» Ben, ça s'appelle passer de l'information. Donc juste oser faire ça, oser participer à des podcasts, etc. La deuxième chose que je trouve vraiment très très importante, et c'est sur ça que je travaille, j'ai envie de dire jour et nuit presque, c'est développer des messages clés, à savoir la biodiversité. Là, moi, quand je suis rentrée là-dedans, je vous avais dit au début, je trouvais ça un peu poche, j'y connaissais rien. Puis je parlais avec des biologistes et j'étais « Oh mon Dieu que c'est compliqué !» Je comprends pourquoi est-ce que c'est difficile à vulgariser parce que c'est tellement de nuances, etc. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de message clé à sortir. C'est juste un peu de travail d'arriver à généraliser, mais c'est possible de le faire. La troisième chose aussi, ce serait vraiment de travailler sa communication dans l'espace public pour toutes celles et ceux qui se sentent confortables ou appelés à le faire. Donc j'ai vraiment conscience que de base, la job ne demande pas ça. Donc, c'est bien correct de vouloir être un biologiste dans son labo et de ne pas vouloir prendre la parole. Mais celles et ceux qui sentent qu'ils ont une voix, qu'ils ont des choses à dire, ben, osez le faire. Parce qu'en faisant ça, ça veut dire qu'on va répondre de l'information, on va permettre aux gens de comprendre ce qui se passe et comment agir.
Tu as déjà un petit peu répondu, mais notre fameuse question ici au podcast La tête à Papineau. Selon toi, quelle place devrait avoir la vulgarisation scientifique ici au Québec?
Je trouve que ce qui est vraiment important, c'est de prendre la vulgarisation scientifique au sérieux. C'est vraiment de la considérer maintenant comme une part entière du processus, j'allais dire de réparation du monde, mais ça fait donc bien intense, mais de la considérer vraiment comme une solution, en fait, à savoir que vouloir faire passer des politiques publiques. On a l'exemple de la taxe carbone en ce moment, par exemple, qui a été extrêmement mal vulgarisée, mal expliquée. Quand la vulgarisation scientifique n'est pas prise au sérieux, ça peut mener à de la polarisation, ça peut mener à des rejets de super bonnes mesures ou à l'adoption de très mauvaises mesures aussi. Donc, arriver à prendre ce métier comme un métier. Donc, un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, bah, tu sais, toi, tu fais de la vulgarisation. C'est pas un métier, c'est un art. » J'étais vraiment bien vexée. Je trouve que c'est un métier à la base. Ça demande du travail, ça demande d'aller rencontrer les gens, de développer des outils, etc. Donc, j'espère vraiment que dans le futur, quand on considérera une solution environnementale, quelle qu'elle soit au niveau d'une municipalité, des budgets seront mis pour la vulgarisation et la communication au grand public. Et vraiment une vraie communication sincère, basée sur des faits, sur des discussions, etc. Et là, je pense que tous ensemble, on va s'élever.
Ça donne le goût de plonger dans le monde de la vulgarisation. Hein. T'écouter.
Je le souhaite. Tu fais déjà ça très bien.
Oui, merci. Sinon, pour conclure, quels sont tes prochains projets ou est-ce qu'on peut te suivre?
Prochain projet en doctorat.
Grand projet.
On aura peut-être l'occasion de s'en parler un autre jour, mais en longue histoire courte, mais à nouveau. Mais mon doctorat vise à parler et faire parler de la biodiversité dans le but de changer des normes en sa faveur. Donc ça va être un projet de recherche-action, donc on aura certainement l'occasion d'en parler quand le moment sera venu, à savoir dans un futur plus ou moins indéfini.
Un événement Bistro Brain, peut-être.
Exactement. Merci. Et sinon, pour me suivre, j'ai décidé de quitter Twitter, alias Nouveau X, pour des raisons très personnelles d'éthique. Mais sinon, c'est sur LinkedIn. Je pense que c'est le plus facile pour discuter, pour jaser.
Super, merci beaucoup Coralie.
Ben, merci pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir de parler avec toi.
Marco, Coralie, merci beaucoup pour cette belle entrevue. On parlait de biodiversité, je me permets de faire un petit coup de promotion pour BistroBrain parce que ton directeur a présenté déjà en 2021 BistroBrain aux grandes découvertes de l'Université de Sherbrooke. Donc si vous allez voir la présentation de Dominique Gravel, juste à taper son nom et BistroBrain dans la barre de recherche YouTube et vous allez pouvoir tomber dessus. On va aussi mettre le lien dans la description de l'épisode. C'est ce qui met donc fin à notre 33e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. On prend le temps de vous remercier, chers auditeurs, d'être là dès le début, déjà 4 saisons en cours. Merci vraiment de soutenir le projet et nos activités. Merci également à l'équipe présente aujourd'hui, donc Marca, Maude, respectivement à l'entrevue et la chronique, et notre invité spécial, Coralie Beaumont, pour ce soir. On fait aussi une invitation à nos prochains événements d'ici notre prochain épisode. Donc, à commencer avec le 10 avril à Sherbrooke, un événement hors série science et fiction qui est en collaboration avec le Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke. C'est déjà à sa 3e édition. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va départager la science de la fiction dans des œuvres populaires comme Doom, Godzilla ou encore Watchmen. Donc, c'est ton rendez-vous la semaine prochaine à Sherbrooke. Sinon, ben, on a un autre événement à Montréal le 25 avril, qui est encore une fois au Sainte-Élisabeth. C'est notre événement de fin d'année à Montréal, thématique neurosciences en collaboration avec le Centre d'innovation biomédicale de l'Université de Montréal. Là-dessus, ben, on vous remercie encore une fois pour votre écoute et on vous invite toujours à partager la bonne nouvelle du podcast à vos amis. Au plaisir!